de l'université de Mohamed V à Rabat, au Maroc, bien sûr. Avant de oublier, vous vous présenter un petit peu.
Oui, pas de problème. D'accord. Bon, je suis intrus au sens propre du terme, puisque je n'étais pas prévu au programme. Et je suis en plus économiste, donc je ne suis ni historien, ni littéraire. Bon, j'écris de l'histoire, donc un certain nombre d'ouvrages dont je vais me contenter du dernier, qui s'appelle Le sujet et le mamelouk, qui est paru chez Fayard en 2008. Qui, dans l'édition anglaise, paraît chez Cambridge ce mois-ci. Et donc voilà, je travaille sur les rapports de pouvoir et sur l'esclavage dans le monde musulman. Donc c'est ça le thème.
Donc le titre de votre communication.
Alors le titre, en vérité, j'ai oublié le titre que j'avais donné, mais le titre, c'est le rapport du roman et disons, cette dialectique entre le roman et l'histoire. Et justement le rôle que ça peut jouer chez l'historien. Donc là, c'est pas de l'analyse comme je vois que ça se passe ici. C'est vraiment un récit un peu d'une histoire d'écriture. Voilà comment ça se passe. Non, bien sûr, mais je...
Alors vous avez, si vous voulez avoir une question, vous avez à peu près 20 minutes.
Ça va être... Je crois qu'ils ont eu 25 minutes. Non,
maintenant, s'ils ont eu 21 minutes, c'était le maximum.
Ça va être... Voilà, donc c'est bien. Très bien. Nous sommes au sud du Maroc, moitié du 19e siècle. Sur la route de Taroudante, un grand caïd siège dans sa forteresse toute proche de la côte atlantique. C'est une des autorités les plus en vue du Merzen, ce gouvernement central marocain qui fascine tant d'observateurs européens, dont très peu s'engagent à l'époque à l'intérieur du pays. On le dit vice-roi dans les faits. C'est de l'autorité publique, le sultan le consulte pour toutes les affaires qui comptent. Homme de confiance en haut lieu, il est au-dessus de tout soupçon. Et puis, coup de tonnerre dans un ciel apparemment serein. La rumeur se répand en traînée de poudre. Le caïd, à la position tant enviée, est arrêté. Un émissaire du palais, dont personne ne s'est rendu compte de l'arrivée nocturne, lui aurait enjoint, au nom de son maître, de se rendre à Marrakech, où le sultan l'attend. Quelques jours plus tard, la triste nouvelle parvient à la région. Le caïd est décédé. Que s'est-il passé exactement? Arrivé à Marrakech, il a été reçu par le sultan. Ce dernier le met en garde en lui présentant une coupe de poison. Ou tu bois pacifiquement cette coupe, ou tu seras enchaîné et traîné dans les rues de la ville devant la foule. Le caïd n'a pas le choix, il savait son heure arrivée, il s'exécute. Les détails de la mort du caïd ne sont nulle part relatés dans les documents officiels, correspondances publiques ou archives secrètes. Ils ne le sont pas non plus dans les livres d'histoire. Ceux-ci se contentent d'en donner la date, rien d'autre le filtre. Tout se passe de bouche à oreille. C'est la rumeur qui se charge de colporter les modalités macabres de la mort susdite. Elle nous embarque à travers ce récit mortuaire dans une ambiance digne de l'Orient des mille et une nuits. La puissance, le mystère, le poison et le reste. Mais elle ne s'arrête pas en si bon chemin. Elle consent à nous mettre au parfum pour ce qui relève des causes de cette fin imprévue, brutale et précipitée. Le commandement du caïd confine aux limites du territoire réellement contrôlé par l'administration centrale. Du fait de cette proximité, il est en rapport avec les populations des marches de l'État et même de l'au-delà. Aussi est-il souvent sollicité en qualité d'intermédiaire averti dans les négociations avec les tribus remuantes du Maroc saharien et avec les grands seigneurs quasiment indépendants de l'autorité sultanienne. C'est ce qui serait aux origines de sa ruine. Les caïds, nouvellement promus du Haut Atlas et des environs de Marrakech, nourrissent de leur confidence cette compromission. Et par ailleurs, ils se délectent de la chute d'un personnage perçu de plus en plus comme gênant. Mais au fait, comment les choses se sont-elles passées? On raconte qu'un de ses émissaires a perdu une missive. Il en était porteur à un des seigneurs en sécession dans le sud lointain. Il aurait profité d'une halte en route pour respirer et prier, mais il égara la correspondance en pleine oraison. La lettre parvint au sultan et lui dévoila la félonie de son serviteur, et c'est ainsi qu'il décida sans hésiter de le mettre à mort. On prend note entre-temps de la toute-puissance supposée du sultan, qui a la haute main sur tout, même sur un sujet de peu d'importance, en route pour porter une lettre dans un coin perdu, très très loin de la capitale. Le territoire immense, au vu des moyens de communication, il n'y a pas de route, ni même le plus souvent de piste, semble transparent jusque dans ses profondeurs pour le commandeur des croyants. Et justement, c'est au moment de la prière, et donc de solitude et de vérité face à l'Éternel, que l'émissaire est délesté du document compromettant par la grâce de Dieu. Quoique nous soyons confondus par un tel miracle, c'est bien le récit qui nous en est fait par les historiens. Ces derniers, puis évidemment leur chronique dans le récit oral, produit lui-même de voix multiples, diverses et parfois discordantes. Mais pourquoi l'histoire écrite n'a-t-elle pas daigné nous en dire plus en se fondant sur des sources crédibles, écrites et originelles? Il serait tout à fait étrange de penser que les chroniqueurs officiels, proches des grands de l'État, soient demeurés dans l'ignorance des faits, ou au moins d'une partie d'entre eux. Pourtant, ils restent muets, totalement muets à ce sujet au sens littéral du terme. Ils ne vont pas plus loin que la date du décès, dont nous ne sommes même pas, à vrai dire, assurés. Nous quittons alors le domaine de l'histoire, comme récit événementiel basé sur un témoignage crédible ou susceptible de l'être. Il n'y a pas de témoin, la chronique semble du coup échapper à l'historien. Elle est tissée ailleurs, fruit des échanges à mi-voix, qui gagnent en ampleur, en vitalité, en mystère, au fur et à mesure que s'allonge la distance qu'il parcourt. Elle est, d'une certaine façon, le produit des imaginations forgées, elles-mêmes par les représentations propres aux acteurs concernés. Imagination des gens proches de la cour, les domestiques notamment, sont des acteurs de l'ombre auxquels échappent rarement les détails. Ils raffolent d'engranger les secrets dont ils sont témoins. Ils aiment faire étalage de la puissance de leur maître et en conséquence la leur, en se vantant d'en savoir des choses qui fascinent l'homme du commun. Mais il n'y a pas que, il y a aussi l'imagination des gens de la région, des membres de la famille du caïd, de la tribu, qui entretiennent un autre rapport au défunt et à sa mémoire. Ils sont loin de la capitale, qui leur paraît sur bien des plans extraordinaire et mystérieuse. Mais ils n'ont pas moins le souci de leur terroir. De tous ces bavardages naît une rumeur résultante de toutes les autres, qui donne alors le corps du récit. Le temps opère par la suite pour consolider ce qui peut prétendre à la durée. Mais n'est-ce pas que ce travail des imaginations peut légitimement nous faire dire que l'histoire, incapable de rendre compte des faits ou non désireuse de le faire, laisse la voie libre au roman qui peut en prendre possession? Il y a ainsi des moments où le voile tombe de façon abrupte, où le secret est de règle, les intérêts en jeu sont tels qu'on n'entend pas les livrer à la lumière du jour. Reconnaissons-le, pour ne rien cacher, le roman devient dans ce contexte pratiquement plus propice au traitement d'un tel état de choses. N'est-ce pas que la vérité est souvent fade? Il n'y a qu'à voir combien les médias de nos jours s'en détournent au profit des ragots. Peut-être que dans le cas qui nous préoccupe, l'histoire n'avait rien à dire de plus. C'est plausible. Le caïd est mort, un point c'est tout. La chronique officielle ne rend même pas compte la plupart du temps du décès de tel personnage. C'est une histoire chronologique centrée sur le roi. Incrédule et déçu, la rue s'est alors saisie de l'affaire. Les colporteurs de la rumeur en ont fait leur affaire. Et de fil en aiguille, on en est arrivé à un récit qui circule depuis. Il est, on ne peut plus, romanesque. Il ne s'arrête pas aux motifs précédemment relatés. Heureusement, il va beaucoup plus loin. Le travail de fiction est très élaboré. Une certaine histoire est en vogue concernant le caïd limogé, mis aux arrêts et aux dernières nouvelles empoisonné. Le père du sultan qu'il sert aurait offert à son propre père une esclave noire qu'on disait concubine royale. À en croire les anciens de la maisonnée, cette dernière serait parvenue enceinte à la maison paternelle. Elle donna naissance très vite à un garçon qui n'était autre que notre caïd. Les sous-entendus sont explicites et ils donnent des idées. Ce dernier prétendrait ou risquerait de prétendre à l'ascendance royale. Il est donc urgent d'en venir à bout. La conclusion est infaillible. Voilà un autre motif autrement plus grave que des amitiés supposées avec des opposants lointains au sultan et ne présentant nul risque immédiat. Une telle allégation n'est pas propre à ce récit. On la retrouve dans d'autres circonstances historiques. À la naissance même de la dynastie régnante actuelle, une maison concurrente qui avait emprisonné le fondateur de la dynastie alaouite raconte, non sans malice, aujourd'hui encore, que l'esclave qu'elle avait offerte aux prisonniers lui était confiée, déjà chargée, pour reprendre le mot.